Europe 1. Comme tous les dimanches, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée demain sur Europe 1.
Avec le jardinier en chef du domaine national du Trianon et du Grand Parc de Versailles qui publie chez Grasset « Mes jardins de Paris », les Parisiens n'en ont jamais eu autant envie de ces jardins qui ont rouvert hier après 2 mois et demi de fermeture. Alain Baraton, vous ne pourriez pas vivre sans jardin.
Ah, c'est même totalement inconcevable. Mais ce besoin de jardin n'est pas d'aujourd'hui. Je raconte dans ce livre l'anecdote des Tuileries lorsque Louis XIV décide de mettre un terme à la surfréquentation et il leur donne la fermeture. Et c'est Colbert, le grand Colbert en personne, qui dira « Non, Majesté, il faut les maintenir ouverts. Le peuple en a besoin. » Donc ces jardins, ce n'est pas seulement un besoin d'espace vert. Les jardins appartiennent à nous tous, c'est une petite réduction de la planète, on en a besoin.
Alors, du haut de votre immense jardin, le parc de Versailles, c'est quoi, 800 hectares?
C'est 650 hectares, la même surface que le bois de Boulogne.
Eh ben dites donc, vous êtes parti à la découverte de nos plus modestes, voire minuscules espaces verts parisiens, du plus petit, si j'ai bien lu, le square Saunier-CIT, 80 mètres carrés.
C'est pas grand.
Une grande terrasse, quoi.
Complètement, il a été mis dans un endroit improbable, à l'emplacement d'une maison qui n'a jamais été reconstruite après sa démolition. C'était un local, un entrepôt où l'on mettait des pavés, et dans ce quartier de Saint-Germain-des-Prés, un petit peu obscur, eh bien vous êtes dans une ruelle, et d'un seul coup, il y a ce petit jardin, petit mais chaleureux, amusant, et puis il y a un banc qui permet de prendre un petit peu, j'allais dire, le soleil, parce qu'il y a quand même un petit peu de soleil, donc il peut y avoir de petits jardins comme des très grands jardins, et il y en a beaucoup.
Oui, un banc, pas plus. Oh, oui, les plus grands, la Villette, 55 hectares, les Buttes Chaumont, le Champ de Mars, les Tuileries, 23-24 hectares, ils ont tous un passé, une histoire, une personnalité, il y a des tonnes d'informations et d'anecdotes dans votre livre, mais vous... Votre goût d'horticulteur et de jardinier vous pousse vers quel genre de jardin, Alain Baraton ?
Le jardin est fonction de son humeur et de l'heure de la journée. Il est évident que si vous êtes un contemplatif, le musée Rodin est parfaitement adapté. Vous arrivez, vous êtes accueilli par le penseur en personne. Ce n'est pas rien.
Rue de Varennes.
Voilà. Mais j'aime bien également parfois certains jardins un petit peu fouillis. J'adore par exemple le parc Monceau. Alors il est peut-être pas très fouillis, avec un petit inconvénient. Pour le parc Monceau, c'est que j'ai observé que les sportifs, ils sont très nombreux, courent toujours dans le même sens. Observez bien. C'est-à-dire que si vous courez dans le sens d'une aiguille d'une montre, vous avez fort à faire pour éviter tous ceux qui arrivent face à vous. Il y a quand même des habitudes curieuses. Donc, observez, ils vont tous dans le même sens. Donc, le parc Monceau, les Buttes Chaumont, c'est quand même un lieu qui a été construit dans un endroit improbable, ouais. Qui était le pire endroit de la capitale.
Oui, aujourd'hui, il fait partie des jardins maudits.
Oui, complètement. On y enterrait des cadavres en quantité. C'est au but de Chaumont que l'on avait dressé le gibet de Montfaucon et on y exécutait tous les condamnés à mort. Ce fut également une décharge. Il y a eu des combats, il y a eu des suicidés. Le grand pont qui permet de surmonter le lac était appelé dans les années 1900 le pont des suicidés. Vous voyez l'ambiance. Montsouris.
Oui, c'est la même chose pour Montsouris.
Ah,
oui.
Exactement la même chose. Ça s'est même terminé par des bombardements à la Libération. Ce sont des parcs maudits qui, aujourd'hui, ont retrouvé le plaisir d'accueillir des enfants, des personnes en âge de méditer. C'est ça le plaisir du jardin. On se l'approprie, on en joue au maximum.
Les Batignolles aussi, histoire maudite. Le plus savant, le plus riche sans doute, le jardin des plantes, dont j'ai appris dans votre livre qu'il servait de cimetière à 11 des victimes de Landru.
Eh oui, tout à fait, parce qu'un expert du Muséum d'Histoire Naturelle avait été désigné par le tribunal pour expertiser les cendres. Donc il l'a fait, puis il a gardé bien la pièce à conviction chez lui, dont il était logé, il travaillait au jardin des plantes de Paris. Quand arrive l'heure de la retraite, il ne va pas partir dans sa maison du Sud avec, vous vous en doutez, le macabre sachet. Il va donc, en connivence avec le jardinier en chef, enterrer les victimes de Landru sous un soupleur qui aujourd'hui, malheureusement, a disparu, il a été coupé, il était trop âgé, mais les victimes de Landru reposent effectivement dans le jardin des plantes.
Un endroit inconnu.
Un endroit encore inconnu, quoique, j'ai interrogé le jardinier en chef qui a quitté ses fonctions il y a quelques années seulement et qui avait 50 ans d'ancienneté, moi je sais.
Ah bon, oui, 50 ans d'ancienneté, oui, il a pas connu Landru.
Non, mais il a connu son prédécesseur qui, lui... était dans la confidence.
Il y a un coin méconnu d'ailleurs dans le jardin des plantes que je recommande, c'est le jardin alpin avec du relief et des plantes de montagne. C'est un endroit tout à fait étonnant.
Et si vous le permettez, il y a encore un autre endroit dans le jardin des plantes que vous ne connaissez peut-être pas.
Ah non ?
C'est un endroit qui n'est pas laissé à l'abandon mais qui est laissé sauvage. Il n'est pas entretenu, il est interdit d'accès. Oui. Vous êtes dans un petit sous-bois, on entend l'agitation du quartier d'Austerlitz. C'est extraordinaire. Il ne manque plus que les lapins. lapin et le renard pour se croire à la campagne.
Ça, alors, comme le jardin qui est à Montmartre, là, comment il s'appelle ? Le jardin Saint-Vincent, mais il y a un coin de Montmartre qui est laissé complètement en jachère et de façon sauvage.
Hein. Tout à fait.
Il y a aussi des jardins interdits au public que vous nous présentez, Alain Baraton, le parc de l'hôtel de Matignon, celui du Premier ministre, 3 hectares, plus grand et plus beau que celui de l'Élysée.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un jardin qui n'est pas totalement interdit au public. On peut le visiter dans quelques occasions, oui, lorsqu'il y a la manifestation Rendez-vous au jardin. Mais il est vrai que tous ces jardins de ministère montrent que finalement la République s'est accaparée des biens de la monarchie. Tous les grands palais d'État aujourd'hui sont des anciennes demeures aristocratiques et nos ministres se sont bien gardés, à juste titre d'ailleurs, de s'en défaire. Le ministère de l'Agriculture a un jardin magnifique, okay. Le jardin le ministère de l'Environnement, l'Élysée également, qui possède sur sa pelouse l'un des plus gros platanes de Paris, qui possède même un petit hôtel à insectes et qui possède même quelques ruches, ce qui m'avait fait dire non sans humour à François Hollande que la reine était revenue à l'Élysée en y installant les ruches. Donc vous voyez, il y a une vie dans ces jardins absolument incroyable.
Oui, il y a des arbres extraordinaires dans Paris qui sont des arbres anciens, qui ne sont pas toujours bien répertoriés. Il faut ouvrir les yeux, il faut regarder en l'air. Hein.
L'avenue Foch, les contre-allées de l'avenue Foch, 700 arbres, des colosses de sève et de bois, des arbres qui ont été plantés au 19e siècle. Je reviens dans le square Viviani que j'évoquais il y a un instant, qui abrite le plus vieil arbre de Paris, un robinier, donc un acacia, qui a été planté par l'homme qui lui a donné son nom, Jean Robin. Cet arbre a été planté il y a 400 ans et il vit toujours. Vous imaginez si cet arbre, qui est juste à côté de Notre-Dame de Paris, pouvait évoquer tout ce qu'il a vu. Imaginez les histoires qu'il aura à nous raconter.
Ah oui, c'est le plus
400 ans. Oui, c'est le doyen de tous les arbres de Paris.
Il y a aussi des parcs qui ont moins de chance, parfois un peu défigurés, comme le Carré Le Doyen en bas des Champs-Élysées, où on a posé, faute de savoir où le mettre ailleurs, le monumental bouquet de tulipes de Jeff Koons, qui vous intrigue beaucoup.
J'en ai profité pour raconter l'histoire de la tulipomania, la spéculation sur la tulipe qui avait atteint des cours complètement dément. Et vu que je compare l'art de Jeff Koons à de la spéculation brute, j'ai trouvé amusant qu'il ait osé offrir un bouquet de tulipes.
Oui, et ben il faudra que vous lisiez, on en a parlé ici, le bouquin d'Yves Michaud, « Ceci n'est pas une tulipe hein, », où lui, il explique que, en fait, les intentions de Jeff Koons sont tout à fait claires. C'est pas une tulipe, c'est un sexe féminin. Et Michaud parle d'un bouquet de trou du cul. Hein,
je ne me permettrai pas.
je vous le dis. Bon, alors, puisqu'on est en période électorale, Alain Baraton, une suggestion pour ces parcs et ces jardins parisiens, c'est le moment, il faut en profiter là.
J'adorais chaque fois qu'il y a une reconquête sur le bitume, que ce soit une rue piétonne ou un bâtiment détruit, qu'on oblige un pourcentage pour la reconstruction des jardins. On voit bien l'attente des Parisiens et des Parisiennes pour les espaces verts. C'est peut-être l'occasion d'augmenter les surfaces et de mettre dans tous les quartiers, partout où cela est possible, des arbres, des arbustes et des fleurs. Un arbre, ce n'est pas seulement un être vivant qui produit du feuillage, c'est un hôte extraordinaire pour des petits mammifères, des oiseaux, des insectes. Ce sont des couleurs. C'est l'arbre qui, en ville, vous indique le temps et la saison. Il faut planter des arbres, il faut respecter les arbres les plus vieux et il faut mettre des jardins partout où cela est possible, sur les murs, comme pour le musée du Quai Branly, sur les toits pour faire des potagers, partout, partout, partout.
Oui, mais après, il y a beaucoup de manières de faire. Il y a la végétation qu'on met pour l'admirer, et puis celle pour poser ses fesses. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est des usages qui sont différents. Et...
D'où l'importance de reconsidérer le maître de ce métier, qui est le jardinier, le plus noble d'après Voltaire. Il faut donc rendre les jardins aux jardiniers, aux vrais jardiniers, qui eux savent les concevoir, les entretenir. Et ce ne sont pas les paysagistes de talent qui manquent en France, il y en a quantité. Il faut que l'on puisse se réapproprier un jardin. Un jardin, finalement, nous appartient à tous. Le jardin le plus beau, vous posiez la question tout à l'heure, est celui que l'on quitte à regret. Mais il faut des jardins beaucoup plus et partout.
Bon, très bien. Merci beaucoup, Alain Baraton. Mais Jardin de Paris, ça paraît très opportunément. Vous ne l'avez pas fait exprès, quand même.
Je ne crois plus au hasard.
Vous ne croyez plus au hasard. Il est programmé depuis combien de temps, ce livre ?
J'avais eu du retard, il devait sortir en mars. Et finalement, le hasard a fait qu'il sort donc le 3.
Il sort le 3,
oui.
D'ailleurs voilà, 3 jours après la réouverture des parcs et jardins.
Et j'en suis très heureux.
Mes jardins de Paris, donc, chez Grasset. Merci d'être venu en direct ce matin sur Europe 1.
Merci.